Bonjour à tous. J'aimerais d'abord remercier Joël de m'avoir invité l'année passée. Ça fait déjà un bon bout de temps. Puis je suis très heureuse d'être en terrain trifluvien. J'étais ici il y a 5 ans. C'est ici que j'ai commencé mon voyage de noces. Alors ça... Mais je connais pas beaucoup. Je connais pas Trois-Rivières. On était juste de passage, mais hier, on a couché au centre-ville. Et puis, on s'est promené un petit peu, là, sous la pluie, avec le parapluie. Et puis, c'est une ville qui est riche d'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. On s'est arrêté vis-à-vis des quelques monuments, puis on lisait au sujet d'un monsieur Hart. On a couché sur la rue Hart. J'ai dit, comment ça se fait, un nom anglais comme ça? Ah, mais c'était le premier juif qui s'est installé ici, à Trois-Rivières. Je trouve que c'est une ville riche en histoire. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est mon voyage de réconciliation avec les Mohawks, vous allez voir, mon mari, il a fait un petit PowerPoint, là. Il y a des photos qui vont accompagner au fur et à mesure mon témoignage. J'aimerais prendre tout d'abord quelques instants pour vous parler d'où je viens. Je suis née à Actonville, dans les cantons de l'Est. Je suis la deuxième de 6 enfants. J'ai grandi dans un bon foyer et à 18 ans, je suis déménagée à Montréal. Je voulais vivre la grande ville avec tous ses plaisirs, les plaisirs qu'elle offre. J'ai occupé dès lors plusieurs emplois et puis j'ai été embauchée par Air Canada comme hôtesse de l'air où je suis restée pendant 5 ans. Mais je sentais un vide intérieur, j'étais insatisfaite. Je voulais donner un sens à ma vie, qu'elle compte pour quelque chose, qu'elle fasse une différence. Le monde dans lequel j'évoluais était très superficiel. Puis à l'époque, j'étais attirée par une secte dont faisait partie une de mes amies. C'était la Fraternité Blanche Universelle. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. La secte, elle parlait beaucoup d'amour, de vie communautaire, d'ésotérisme et un peu de Jésus. J'étais curieuse. Et je ne cherchais pas Dieu réellement, mais je cherchais la vérité. Alors, moi, j'avais tourné le dos à la religion à 12 ans, au grand déplaisir de mes parents. Et j'étais donc en train de lire des livres du maître de la secte. Quand j'ai appris que mon partenaire de vie, lui, avait commencé à lire la Bible. Alors, par curiosité, j'ai commencé à lire un petit livre que j'avais piqué dans la bibliothèque de mon père avant de quitter la maison. C'était les 4 évangiles seulement. Mais chaque fois que je lisais au sujet de la passion, je pleurais. La question qui me revenait toujours était « Pourquoi Jésus ?» Si tu es si puissant, t'es-tu laissé crucifier? Pas de réponse. 2 mois plus tard, quelqu'un me remet une petite brochure qui s'intitulait « Le miracle parfait ». C'est l'histoire de Shiniki. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent? Oui, quelques personnes. Shiniki. Cette petite brochure répondait à toutes mes questions. Alors, à partir de ce moment, ma vie a complètement changé. J'avais une paix intérieure de savoir que Jésus avait pardonné tout mon passé, parce que j'avais reconnu qu'il avait payé le prix pour mes fautes en mourant sur la croix, à ma place. J'avais désormais un but dans la vie, c'était de lui plaire. Dieu m'a aussi donné le désir d'avoir des enfants. Ils ont maintenant 26 et 31 ans. Et j'ai le plaisir d'avoir mon fils avec moi aujourd'hui qui a accompagné Tona Gingras. À partir du moment où j'ai invité Jésus dans ma vie, je voulais lire toute la Bible et connaître Dieu, avoir des expériences personnelles avec lui. Mais 10 ans plus tard, je suis retournée aux études en traduction à l'Université de Montréal parce que je trouvais qu'il manquait de matériel chrétien en français dans les librairies. Ça, c'est il y a 30 quelques années. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Maintenant, ça a changé. Je traduis maintenant le magazine En contact depuis 10 ans, comme Joël le disait, et vous pouvez vous en procurer un exemplaire en sortant. Voici maintenant une brève introduction à la crise d'Oka. Pour tous ceux qui n'étaient pas nés ou qui ont peut-être oublié. Alors, seulement pour par curiosité, qui ne connaît rien de la crise d'Oka? Ceux en bas de 25 ans, sûrement. je vais vous le résumer en 2 phrases. Et puis, à la fin, toute fin, je vais, sur le PowerPoint, je vais vous donner des références de livres ou de films pour en savoir davantage, parce que c'est pas le but de ma visite aujourd'hui, de parler de la crise comme telle. Le 11 juillet 90, à la demande de la municipalité d'Oka, la Sûreté du Québec se rend tôt le matin à Kanastake pour démanteler une barricade érigée par les Mohawks sur un terrain de terre dans la Pinède, près de leur cimetière. La ville voulait agrandir son terrain de golf privé de 9 trous à 18 trous et y construire des condos de luxe. La crise d'Oka a duré 78 jours. Elle a commencé par la mort de mon frère, le caporal Marcel Lemain, et s'est soldée par l'arrestation de tous les occupants retranchés dans le centre de réhabilitation. Voici mon histoire. À l'été 90, j'ignorais tout de ce qui se passait à Oka. J'écoutais peu les nouvelles. J'étais occupée à la maison avec mes 2 jeunes enfants et mes études. Mes connaissances sur les Indiens étaient limitées à ce que j'avais appris à l'école. Dans mon livre « D'histoire du Canada », quels sont ceux qui se souviennent de ce petit livre? Je pense presque toute la salle. On a tous été élevés pendant plusieurs générations avec ce petit livre-là, qui contient beaucoup de dates à apprendre par cœur. Vous vous souvenez? Dans ce petit livre, on disait que les Iroquois étaient les méchants parce qu'ils étaient associés aux Anglais. Et les Hurons étaient les bons, parce qu'ils étaient associés aux Français. Les mots « autochtones » et « Première Nation » ne m'étaient pas familiers, comme pour la plupart des Québécois. Je parle des années, de mes jeunes années. Tout ce que je savais était que mon frère Marcel, âgé de 31 ans, l'âge de mon fils, venait d'être tué à Oka dans un échange de 90 coups de feu tirés en 20 secondes. Marcel faisait partie des 30 membres du groupe d'intervention de la Sûreté du Québec. Lui et sa femme attendaient leur 2e enfant. J'ai donc 2 nièces qui n'ont pas connu leur père. Après avoir reçu la nouvelle au téléphone par un membre de ma famille, bien sûr, ça a été le choc. La douleur, l'incompréhension. Mais parce que j'étais chrétienne et que je savais que je devais pardonner, c'est ce que j'ai fait. Mais c'était un pardon superficiel. La nuit, je faisais des cauchemars terribles. J'étouffais des sentiments d'amertume, de révolte. Mais en même temps, j'avais un désir dans le fond de mon cœur de rencontrer un jour des Mohawks qui ne ressembleraient pas à ceux que nous montraient les médias, pour ceux qui se souviennent de l'époque de 1990, les images étaient assez révoltantes. L'enquête du coroner a duré 5 ans. Aucun coupable n'a été trouvé. Et le coroner a émis quelques recommandations. Mais chaque fois qu'on montrait la photo de mon frère à la télé, et on la montrait souvent, la plaie s'ouvrait. Mais voici comment a commencé mon voyage de réconciliation avec les Mohawks. En mai 2004, soit 14 ans après la mort de mon frère, 2 étudiants de la radio communautaire de l'Université McGill me téléphone pour me demander une entrevue sur la crise d'Oka, 14 ans plus tard. J'étais ébranlée, surprise, parce que je croyais la page tournée. Je leur demande donc 3 jours pour réfléchir. Et entre-temps, je m'empresse d'appeler une amie qui prenait alors des cours de Mohawk, une Québécoise. Je voulais lui poser quelques questions. Et à la fin de notre entretien, elle me prête un livre écrit par 2 femmes Mohawk qui s'intitule « At the Wood's Edge ». Ce livre brosse un portrait de leur spiritualité, la grande loi de la paix, de leur gouvernement, la Ligue des 5 Nations, leurs coutumes, leur lutte depuis l'arrivée des Européens. Il se termine par la crise d'Oka. Il est très bien documenté. Avec une chercheuse professionnelle, les auteurs ont fouillé pendant 4 ans dans des archives, des microfiches de plusieurs musées et bibliothèques. J'ai dévoré le livre en moins d'une semaine. J'étais très touchée, bouleversée par tout ce que je venais d'apprendre, les abus, les injustices, les empiétements de territoire, les déplacements, les emprisonnements pour simplement avoir coupé du bois pour se chauffer, l'assimilation forcée, les pensionnats, l'inertie du gouvernement, les promesses brisées, l'attitude paternaliste, les tours de passe-passe du clergé, et j'en passe. Le dimanche suivant, dans une église évangélique que je fréquentais à Dollard-des-Ormeaux, 6 Mohawks, dont Mavis Etienne et Harvey Gabriel, étaient invités à présenter leur projet de traduction de la Bible en Mohawk. Pendant toute la présentation qui a duré 1 heure, je suis prise de tremblements incontrôlables, de la tête aux pieds. À la fin, je me sens poussée à demander la permission de prendre la parole et calmement, sans plus trembler, je remercie les invités pour leur présentation. Puis, je leur demande pardon pour les injustices que le peuple a subies dans le passé et qui a laissé des traces indélébiles jusqu'à présent. Enfin, après une courte pause, je m'identifie comme étant la sœur du caporal Marcel Lemay qui a été tué durant la crise. Je me souviens que l'assistance était très émue. Tout le monde pleurait dans la salle, et parce que très peu de personnes savaient que c'était mon frère qui avait perdu la vie à Oka. Mavis, la responsable du projet de traduction de la Bible en Mohawk, une photo d'elle ici avec moi, elle était négociatrice aussi durant la crise d'Oka. Alors, elle remonte sur l'estrade et demande aussi pardon pour son propre racisme, ses préjugés, et elle m'offre ses condoléances. Mais avant de partir, elle m'invite pour le samedi suivant à un événement appelé Trail of Prayers, le chemin des prières. Il s'agissait d'un parcours sur le territoire de Kanastake où l'on s'arrêtait à 4 endroits stratégiques pour chanter et prier pour le bien de la communauté en anglais, en français et en mohawk. Au dernier endroit, soit dans la Pinède, c'est là où eut lieu les 90 coups de feu, je suis pris de nausée, accroupie par terre. Mavis m'offre de retourner chez moi et je lui dis non, je veux aller jusqu'au bout. Quelques personnes m'entourent et prient pour moi et tout de suite je me sens mieux. Les participants ont ensuite formé un cercle d'amitié où plusieurs personnes m'ont offert leurs condoléances, dont un des frères du fameux Lasagne, qui était chrétien depuis 5 ans et avec qui on a gardé contact. Je vivais finalement le deuil de mon frère et un processus de guérison et de réconciliation était en cours. 4 mois plus tard, Mavis m'invite à aller à Ottawa pour assister à la présentation d'un organisme qui s'appelle My People International, qui travaille à la guérison des Autochtones. Et c'est là que j'ai rencontré mon futur mari, Daniel, qui est ici présent. Et le 24 juin prochain, on fêtera notre 5e anniversaire de mariage. On s'est mariés sur la rue, je me souviens, à Laval, le 24 juin. Puis pour aller sur la rue, je me souviens, il faut prendre la rue des Patriotes. Faut le faire. 4 ans plus tard, en décembre 2008, je fais la lecture d'un livre très intéressant, écrit par Donald Gingras et qui s'intitule « Fenêtre d'espoir et de réconciliation ». Je crois qu'on en a déjà parlé au début. C'est son expérience de réconciliation avec les anglophones. Alors, l'idée me vient de traduire « At the Wood's Edge » pour informer les francophones, dissiper les préjugés et bâtir des ponts avec les Autochtones. Maintenant que j'avais vécu mon propre voyage de réconciliation, je désirais que d'autres entreprennent le même voyage. Je commande donc le livre et propose ensuite au Centre culturel de Gonastaque de le traduire. La responsable du centre me répond qu'ils n'ont pas les fonds pour payer le coût de la traduction et de l'impression. La version anglaise avait coûté cher et ne s'était pas vendue. Juste une petite remarque. En passant, ils ont invité tous les médias et aucun ne s'est présenté. Ça, c'est en 95. Mais j'avais déjà prévu de le traduire bénévolement, comme une contribution pour leur perte en dépit de la mienne. Je souhaitais aussi que le lancement du livre coïncide avec le 20e anniversaire de la crise, soit le 11 juillet 2010. Ça me donnait un an pour le traduire. Alors, 2 mois plus tard, je rencontre un groupe de Mohawks à Gonastaque, dont l'une des deux auteurs, qui est Arlette Kawanatati, il y avait aussi Hélène Gabriel, deux chefs du conseil de bande, le responsable du centre culturel, mon mari était là aussi. Au début, je ressentais une atmosphère de méfiance. Il y avait de la tension, c'était palpable. Peut-être se demandait-il pourquoi la sœur du policier qui a été tué lors de la crise sur notre territoire voudrait-elle traduire l'histoire de notre peuple? En tout cas, j'explique mes intentions et ils me donnent le feu vert. De leur côté, ils ont fait une demande de subvention fédérale. Et puis, J'ai écrit à Michael Jean, j'ai fait une demande, et puis ça a pris du temps. 3 mois, c'est passé, pas de nouvelles. Je réécris une deuxième fois, et puis là, on me répond de m'adresser. On me répond poliment de m'adresser ailleurs. Et puis le centre culturel, eux, ils ont fait une demande au provincial, et puis ça a été refusé. Mais, on continue. Au début de la traduction, j'étais très motivée et enthousiaste, même si le travail était épuisant, en plus de mes autres contrats. J'avais des douleurs physiques extrêmes, des crises de fibromyalgie presque chaque nuit. Après quelques mois de travail, j'ai commencé à éprouver beaucoup de doutes, de la fatigue, du découragement, mais j'avais donné ma parole. J'étais consciente des nombreuses promesses qu'on leur avait faites et qui avaient été brisées. L'an passé, janvier 2010, enfin une bonne nouvelle arrive. Une gérante de projet qui travaille au centre de santé à Gonastaque a demandé une subvention à l'agence qui l'avait embauchée et sa demande est acceptée. Grand soulagement pour tout le monde. Le centre pouvait maintenant payer pour une réviseure agréée. Et soit dit en passant, cette réviseure, c'est Pascale Monossier et j'ai su que c'était une église où elle a grandi, où ses parents, sa famille a grandi. C'est elle qui est ma réviseur aussi pour En Contact depuis quelques années. Donc, on pouvait payer pour ses honoraires et aussi pour l'impression du livre. avec la subvention. Donc, les 1000 exemplaires du livre « À l'orée des bois » sont arrivés au Centre culturel juste une semaine avant le lancement qui a eu lieu le 11 juillet 2010. Quelle coïncidence! Je dis coïncidence, mais vous savez, je ne crois pas aux coïncidences, au hasard et à tout ça. Moi, je crois au rendez-vous divin. Je tiens à préciser que le livre n'est pas disponible en librairie. On peut seulement se le procurer au Centre culturel de Kanastake ou par mon site web ou le site web du centre. J'en ai apporté quelques exemplaires avec moi. Alors, si vous désirez le vôtre, voyez mon mari à la fin de la conférence, c'est lui le ministre des Finances. Moi, je suis la ministre de la Réconciliation. Je tiens à préciser que tous les profits vont pour l'école d'immersion à Kanastake. Donc, lorsque vous achetez le livre, non seulement vous renseignez, vous avez des connaissances qui sont appuyées par des archives, c'est pas des légendes, mais vous aidez aussi les enfants. J'ai pensé aussi, je connais personnellement Pierre Lepage, qui est anthropologue, qui a travaillé pendant de nombreuses années pour la Commission des droits de la personne. Je l'ai rencontré au lancement du livre et j'ai commandé de la Commission des droits de la personne ce livre qu'il a écrit, « Mythe et réalité sur les peuples autochtones ». Alors, à chacun de ceux qui achètent le livre que j'ai traduit, qui s'appelle « L'orée des bois », vous pouvez avoir « Mythe et réalité ». Et puis, si vous n'achetez pas le livre, puis si vous ne pouvez pas avoir ça gratuitement, bien, vous pouvez l'avoir gratuitement sur le web. Il est disponible. Je ne peux pas passer sous silence le fait que c'est ma foi en Dieu et en sa parole qui a joué un rôle majeur dans mon voyage de réconciliation. Le pardon et la réconciliation sont des sujets universels. Mais c'est Jésus qui en est l'exemple parfait. Je sais que Dieu peut transformer des tragédies en victoires, faire découler de bonnes choses des mauvaises. Plusieurs m'ont dit, après avoir lu mon histoire, qu'elle était merveilleuse. Je leur réponds que c'est plutôt l'auteur de l'histoire qui est merveilleux. Et je crois que chaque histoire peut être tout aussi merveilleuse que la mienne si on laisse le Créateur en écrire le script. J'aimerais maintenant vous partager quelques pensées sur la réconciliation, des choses que j'ai apprises depuis que j'ai entrepris ce voyage il y a bientôt 7 ans. Des gens m'ont demandé, Madame Lemay, comment est-ce possible que la sœur du policier qui s'est fait tuer en cas puisse parler de pardon et de réconciliation? Tout d'abord, je crois qu'à la base de toute réconciliation, il y a information. Je n'aurais pas pu entreprendre ce voyage de réconciliation avec les Mohawks si je n'avais pas lu le livre à The Wisetch. Sans cette information, je serais restée dans l'ignorance, la méconnaissance et le ressentiment. C'est évident, on ne vient pas au monde avec des préjugés et du racisme. Ils se développent avec le temps. Toutes sortes de mythes sur les Autochtones sont véhiculés par la société, les livres d'histoire, les médias, pas Radio-Canada. Non, je parle en général. Hollywood, les films, la famille. Ces mythes sont solidement ancrés dans la psyché sociale collective et sont difficiles à déraciner, je le sais. En général, les faits qui sont honteux ou répréhensibles dans une société sont souvent gardés cachés et donc inconnus par la majorité des gens. L'information sert donc à enlever nos œillères, à lever le voile, à briser des idées préconçues, à démanteler des barricades qui persistent dans les cœurs et les esprits. Mais une fois informé, que peut-on faire concrètement? Je crois que la réconciliation ne peut être authentique que si elle est accompagnée par des actions concrètes. Autrement, elle reste un vœu pieux. Un exemple d'action peut être aussi simple que de rétablir aimablement la vérité quand l'occasion se présente. Si je veux vraiment la réconciliation, je dois faire les premiers pas. Prendre l'initiative. Mais si je tends la main, la première, l'autre a la responsabilité d'accepter la main tendue. Si je veux influencer par mon exemple cette personne, en l'acceptant même si elle garde ses préjugés. J'ai aussi appris à ne pas avoir de préjugés à l'égard des personnes qui ont des préjugés, parce que depuis la sortie du livre, j'en ai rencontré plusieurs. Dans toutes sortes de circonstances, même des voisins qui ont des préjugés et qui ne veulent pas s'en défaire. Ces personnes-là, je dois continuer à les aimer, à user de patience envers eux, en ne remettant pas le mal pour le mal. Mais pour toutes sortes de raisons, il y aura toujours des gens qui insisteront pour garder leurs préjugés. J'en ai rencontré plusieurs, et cela des deux côtés. Quand je dis deux côtés, je fais allusion aux autochtones comme aux non-autochtones. Certains ont des blessures émotionnelles graves. Mais j'ai découvert que toutes ces personnes qui sont blessées ont besoin bien plus que de l'information. Elles ont besoin de pardonner. Pardonner, c'est choisir de ne pas garder rancune contre quelqu'un, de ne pas chercher à se venger. Des recherches sur le pardon ont démontré que le manque de pardon peut entraîner des maladies physiques, émotionnelles et mentales. Pardonner, c'est d'abord pour nous-mêmes, pour notre bien. Tant qu'on ne pardonne pas, on reste prisonnier de notre amertume, de notre ressentiment, de notre colère, notre rancune. Pour pouvoir pardonner, j'ai compris qu'il faut aussi accepter de mettre notre douleur de côté, sans toutefois la nier, ni la minimiser, pour pouvoir considérer la douleur de l'autre. C'est un processus plus ou moins long, selon la gravité de l'offense, la personnalité de l'individu. Mais dans le pardon, il y a la puissance de la guérison. Pardonner est un choix personnel, un acte volontaire, mais qui porte fruit. J'en suis la preuve et j'en connais beaucoup d'autres. L'été passé, j'ai eu une expérience personnelle lors du powwow à Gunastagi, c'était au mois d'août, et j'avais une petite table de livres, toute petite avec quelques livres, et puis il y a une jeune femme qui est venue vers moi, puis elle a détaché le bracelet qu'elle avait au bras, au poignet, puis elle me l'a donné. Et puis elle dit, c'est ma fille qui l'a fait. Elle dit, je te le donne, elle dit, parce que j'apprécie beaucoup ce que tu as fait, la traduction du livre pour mon père. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est, ça? Personne? C'est le premier, parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des contrats, mais c'était des traités entre les Blancs et les Autochtones. Ça, c'est... Ils échangeaient des ceintures, ok? C'est comme le bracelet, là. C'était long, c'était une ceinture. C'est le two-row wampum. Le wampum, c'est des petits coquillages. Puis two-row, c'est deux rangées. Puis c'est le premier traité qui a été fait avec les Européens, entre les Européens et les Autochtones. 1613. Et puis, les deux rangées que vous voyez là, ça représente, nous, le bateau, notre bateau, on s'en va sur le fleuve, et puis votre bateau, vous, il s'en va sur le fleuve, mais à côté, en ligne parallèle. Vous n'interférez pas avec nos coutumes, notre religion, et puis nous, on n'interfère pas dans vos coutumes, puis votre religion, puis votre loi. C'est ce que voulait dire le wampum à deux rangées. Et puis, ça date, j'ai dit, en 1613, je crois. Et... C'est encore en vigueur aujourd'hui, ce contrat. Je peux vous dire que la paix n'est pas gratuite. Elle nous coûte notre orgueil, notre égoïsme, notre indifférence, mais aussi parfois notre temps et notre argent. Cependant, il y a aussi un prix à payer pour rester amer, pour ne pas pardonner. Perte de la paix intérieure, perte de relations, perte de nuit de sommeil, perte de notre santé même. Alors, l'information est certainement à la base de toute réconciliation, comme ma réconciliation avec Dieu, c'est parce que quelqu'un m'a informé et j'ai pu me réconcilier avec Dieu, mais de la même façon, j'ai pu me réconcilier avec les Mohawks parce que j'ai été informée. Mais l'information, c'est la base, c'est nécessaire, mais dans le pardon, mais c'est le pardon qui est au cœur de la réconciliation. Pour terminer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est la parabole de la réconciliation. C'est l'histoire de deux frères. C'était deux fermiers qui avaient leur terre côte à côte. Et puis, ils s'entendaient bien, eux, avec leur famille respective. Et puis, ils partageaient tout quand c'était la machinerie, quand c'était temps des labos, l'ensemencement, la moisson et tout ça. Puis, un jour, il y a eu une altercation, des disputes. Le fils cadet a dit des méchancetés, des gros mots à son frère aîné, en tout cas. C'était fini leur relation familiale. Donc, le frère cadet a décidé de faire creuser un fossé entre les deux terres. Et puis, pour montrer vraiment qu'il n'y avait pas de possibilité de travailler ensemble. Et puis, entre-temps, on frappe à la porte chez le frère aîné. Et puis, c'était un menuisier itinérant. Et puis, le menuisier offre ses services tout bonnement pour réparer ou construire des choses. Et puis, le frère aîné lui dit, tiens, oui, j'aurais un travail pour toi. Il dit, tu vois le fossé ici qui me sépare de mon voisin. Il dit, j'aimerais que tu construises un mur, mais haut, 8 pieds de haut, parce que je ne veux plus voir du tout ce qu'il y a de l'autre bord du fossé, là, cette maison, puis tout ça, je ne veux rien savoir. Alors, voici des clous, puis du bois, puis moi, je m'en vais au village pour la journée. Et puis, quand je vais revenir à l'heure du souper, penses-tu que ça va être fini? Il dit oui. Alors, le temps passe, l'homme s'affaire, cogne, et puis le frère aîné revient le soir, les yeux ronds comme ça, tout ébahi, et puis qu'est-ce qu'il voit? Au lieu du mur, il voit un pont. Et puis, il voit son frère traverser le pont, venir en courant au-devant de lui, et puis qu'il prend dans ses bras, puis il lui demande pardon pour les méchancetés, puis le fossé qu'il avait creusé, puis tout ça. Et puis, c'était la réconciliation, c'est la parabole de la réconciliation. Elles ne sont pas toutes dans la Bible, les paraboles. On peut en ajouter. Et puis, le frère aîné demande au menuisier itinérant, il dit, est-ce que tu peux rester? J'aurais d'autres travaux à te faire. Et le menuisier a dit, non, il faut que je parte. J'ai beaucoup d'autres ponts à construire. Alors, en cette journée de la fête de Pâques, où des millions de chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus, l'événement le plus puissant, le plus crucial, le plus marquant et déterminant dans l'histoire de l'humanité, je vous pose la question, voulez-vous bâtir des murs? Ou des ponts. Si vous bâtissez des ponts, vous vous séparez des... on efface ça. Si vous bâtissez des murs, vous vous séparez des autres. Vous vous retranchez dans votre colère, votre ressentiment, votre rancune. Mais si vous bâtissez des ponts, vous vous ouvrez au pardon, à la guérison, à la liberté et à la réconciliation. La réconciliation n'est pas seulement avec les Autochtones, comme ça a été le cas pour moi, puis j'ai beaucoup d'amis à Ganastaki maintenant, dans tous les milieux, traditionnalistes ou chrétiens ou autres. Mais la réconciliation, c'est aussi avec les gens de toutes les nations. Nos voisins, nos collègues de travail, les membres de notre église, notre famille, notre conjoint. Moi, il faut que je demande pardon des fois à mon mari. Je dis des fois, pas souvent, mais lui, faut qu'il me le montre souvent. Parce que chaque nuit, il ronfle. Donc, il faut qu'il me demande pardon chaque matin, parce qu'il m'empêche de dormir. J'ai dit tout à l'heure que c'était une décision personnelle, un acte volontaire, mais c'est aussi un acte d'obéissance au commandement de Jésus, parce qu'il a dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et même sur la croix, Jésus a dit « Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Et l'apôtre Paul a aussi écrit aux Corinthiens que nous avions reçu de Dieu le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas un mandat de 4 ans, comme au gouvernement, ça change. Hein? Mais nous autres, c'est un gouvernement à vie. C'est un ministère à vie. Nous pouvons tous être des artisans de la paix. Ce n'est pas facile, mais c'est possible avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, je termine avec ces deux mots, mur ou pont. Merci.